Merci Rémi. Alors, je suis un peu essoufflé, je vais vous parler d'un chiffre étonnant aujourd'hui. 24 000 milliards, bah, c'est le montant en dollars des transactions qui ont été faites par carte bancaire dans le monde en 2016. Alors, 24 000 milliards de dollars de transactions par carte bancaire, est-ce que ça vous semble beaucoup à vous ?
Ouais, plutôt.
Bah écoute, je sais pas trop.
Bon, et à votre avis, dans le monde, qu'est-ce qui est le plus élevé ? Le montant par transaction par carte bancaire ou le montant des transactions en cash ?
Moi j'aurais tendance à dire en cash, ouais.
Oui, en fait, selon Euromonitor, c'est un institut spécialiste de la recherche sur les marchés, l'année dernière, c'était la première année où le montant de transactions par carte de crédit dépassait celle des transactions par cash. Donc ce seuil, il a été dépassé en fait depuis plusieurs dizaines d'années par la plupart des pays occidentaux, mais c'est la première fois qu'on le dépasse globalement. On est formellement passé dans une économie majoritairement scripturale. C'est un processus qui a été très largement renforcé par les nouvelles technologies et notamment par sa diffusion par le monde. Vous n'avez pas été sans remarquer, par exemple, la multiplication des moyens de paiement alternatifs, type Easly, PayPal ou même le système d'ardoise ici à l'ENS.
Et cette dématérialisation, justement, qui nous gagne jusqu'au BDE, comment elle s'opère ? Comment l'expliquer ?
Il faut comprendre la monnaie comme un processus historique pour l'expliquer, à mon avis. La monnaie est passée par différentes formes. Au Moyen-Âge, elle était largement matérielle. Elle reposait sur des quantités réelles de marchandises, en particulier sur les métaux précieux. À partir du XVIIe siècle, est apparu ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui repose en fait sur un système de reconnaissance de dettes anonymisée. Concrètement, en fait, les banquiers du XVIIe siècle fonctionnait dans un système de grandes familles réparties sur toute l'Europe. Et ainsi, quand on déposait une certaine quantité d'or dans une banque à Florence, on nous donnait un papier et on pouvait aller chercher cet or plus tard à Paris, par exemple. Peu à peu, ces papiers ont été anonymisés. Donc ainsi, on pouvait échanger les papiers entre eux ou échanger un papier contre un bien. Et c'est comme ça que sont nés les billets de banque. Et les systèmes informatiques actuels permettent de se passer de ce support papier dans un jeu complexe d'échanges de reconnaissance de dette qui passe par l'écriture. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Et donc maintenant, à votre avis, les premières formes de monnaie scripturale, elles apparaissent quand dans l'histoire ?
Marie.
C'est le Crédit Lyonnais.
Pas loin.
Je sais. Non, franchement, aucune idée. L'histoire financière, moi...
Non. Bravo.
Oh, dis donc, toi, l'informaticien, tu la fermes ?
Le système de l'eau, peut-être ?
Non, en fait, elles apparaissent dès la fin du néolithique, avec l'apparition de l'écriture,
Des petites tablettes d'écriture cunéiforme.
En fait, il semble qu'avant d'utiliser les monnaies matérielles, les métaux ou les coquillages, les petites communautés de Mésopotamie utilisaient un système comptable écrit pour échanger, donc une monnaie scripturale. En fait, c'est pour vous dire que la dématérialisation de la monnaie, ça n'a rien à voir avec le progrès. Elle repose avant tout sur une transformation des modalités de la confiance et de la manière dont on comprend la valeur en société. En effet, la monnaie scripturale, elle est possible parce que, en Mésopotamie, elle était possible parce qu'on était dans des petites communautés, parce que tout le monde pouvait avoir un regard sur tout le monde. Les échanges étaient faciles à répertorier. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent une meilleure vision des individus les uns par rapport aux autres, et donc la possibilité de créer des conditions d'une confiance globale de type communauté, mais cette fois à l'échelle mondiale. Donc, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas de cette dématérialisation de la monnaie ? C'est assez ambivalent parce que d'un côté, ça permet de fluidifier les échanges, de les augmenter en nombre et en volume, ce qui fait du bien à l'économie. Il y a des études qui ont montré que la dématérialisation permet de faire baisser la criminalité. Par exemple, à New York, plusieurs bars ont décidé de ne plus accepter le cash pour éviter d'être braqués. Mais d'un autre côté, ça oblige à passer par des intermédiaires pour ces échanges, de passer par ceux qui gèrent ces écritures, c'est-à-dire les banques ou des start-up informatiques, ou des géants comme Apple. Et il y a plusieurs problèmes à ça. D'abord, ces compagnies prennent des commissions sur les échanges. À titre d'exemple, les Américains perdent 500 millions de dollars chaque année à cause d'agressions de type monétaire, mais 8 milliards en commissions pour les cartes bleues. Et l'autre problème, c'est que la monnaie scripturale, elle n'est pas anonymisée. On peut en garder la trace individuelle.
Et du coup, les compagnies qui les gèrent ont des informations sur ces transactions.
Oui, c'est vrai.
Bon, je suis pas un très... ça à l'informaticien que je suis.
Exactement. Je ne suis pas un très grand fan de la théorie du Big Brother personnellement. Je dirais plutôt que ceux qui professent la dématérialisation totale de la monnaie oublient qu'une grande partie de l'économie ne passe pas par des canaux institutionnels. Que l'économie informelle est très importante et reste très importante. En fait, il faut penser que différentes formes de monnaie coexistent toujours et c'est leur proportion qui varie. Donc finalement, je dirais que la dématérialisation de la monnaie, oui, dans une certaine mesure, ça facilite les échanges, mais d'un autre côté, supprimer totalement le mode traditionnel qu'on connaît, la monnaie fiduciaire, qui me semble posséder des vertus propres, notamment être garant de nos libertés et permettre cette économie informelle. Donc supprimer cette monnaie fiduciaire, ce serait une mauvaise idée. Et de ce point de vue, pour rester dans l'idée du progrès, on peut mentionner que la communauté informatique, bonjour Rémi, arrive néanmoins à de belles choses, par exemple avec le Bitcoin, qui possède à la fois les qualités d'une monnaie scripturale, la fluidité, tout en conservant ses propriétés d'anonymat.
Merci beaucoup Robin pour cette petite histoire de la monnaie.